Mother's Questions and Answers, July 13th, 1955. The mother started the ashram school in 1943. Then she started teaching the children French because the teachers who were teaching the children in French didn't do it in the way she wanted it. In the 1950s, when the first students were old enough and good enough in French, she started teaching them in French from Sri Aurobindo's writings and her own writings. The class, with the students and teachers, met in the playground once a week. Mother read from French versions of books of her writings or Sri Aurobindo's writings, and the students would ask her questions. Each class, with its questions and answers, stands on its own. You don't need to hear one following the other to get everything that Mother says on a subject. I used to read the books, Mother's Questions and Answers, and I would think about the people who were asking her the questions. Sometimes they asked questions that I really thought I would have asked, but other times they asked questions that made me think that they were old ashramites, people who'd been around the ashram for quite a while and knew a lot. I thought they were great people. Then, years later, when I heard the tape recording of the classes, I heard the voices, and I found that they were just children. I could hardly believe it. I asked a friend of mine, who had come to the ashram the year Mother started the school when she was 4 years old, so she had been in the classes, and she said that as she remembered, when they started the classes, the children were no older than 15. She also told me that both girls and boys freely asked questions. Before that, the younger students had learned French from the mother, and so that was continued. The younger children had their class with the mother in French in a separate place. In this radio series on Mother's Questions and Answers, we're starting with the class which was held on July 13, 1955, because starting with this date, tape recordings of the classes are available to listen to. At the end of this English reading, you can hear Mother and the students as the class was recorded. The transcripts of all the classes were published in French under the title of Entretien and translated into English by ashramites and published in the books called Questions and Answers. Even if you don't understand French, it's nice to hear the recording, because you really feel Mother's presence very strongly. And even though you can't understand the words, you can hear so much love and wisdom and care in Mother's voice. In this particular class, there are several different questions on various different subjects. In some classes, there are a lot of different questions, but sometimes the whole class is only on one subject. In this class, as the questions go on, one of the children asks Mother a question about Satchit Ananda. That's a Sanskrit term that's pretty well known by now all over the world. But in case someone doesn't know the term, this is Sri Aurobindo's definition. He said it was, quote, "the triune principle made up of Sat, which is transcendent and infinite existence, combined with Chit, which is consciousness, and with Ananda, which is bliss." He said that Satchit Ananda is the origin and the initial and ultimate reality of all that is in the cosmos. And Satchit Ananda is the ultimate goal and ultimate possibility of human realization. In this class, even though only one question about Satchit Ananda is asked, Mother comes back to this subject as part of her answers to other questions. And it seems like she's continuing to answer the first question in other ways. So we'll start now with the English translation, but Do listen to Mother at the end. It's really nice. Questions and Answers, 13 July, 1955. Mother reads in French from Lights on Yoga, Planes and Parts of the Being. And then she says, "Now then?" And a child asks, "Mother, what does cosmic spirit and cosmic nature mean?" And Mother answers, "It means universal. Cosmic is the synonym of universal." But the child asks again, "But what does cosmic spirit mean?" And Mother says, "Cosmic spirit? It is the cosmic spirit. It is the universal spirit. It is the spirit that's in the whole universe. There is a universe. Do you know what the universe is? Well, this universe has a spirit, and the spirit is the cosmic spirit. And this universe has a consciousness, and its consciousness is the cosmic, universal consciousness. One may very well imagine that the universe is only an entity in something which is still vaster, as the individual is only an entity in a much vaster totality. Now, each unit has its consciousness and its own spirit, which contains all the others, as a group consciousness is made up of all the individual consciousnesses which constitute it, and as a national consciousness is made up of all the individual consciousnesses which constitute it, and something more. The individual is only an element in the whole, even as the Earth is a part of the solar system, and the solar system makes a part of all the systems of the universe. So, just as there is an individual consciousness, there is a group consciousness, and a consciousness of the system, a consciousness of the universe, which is made up of the set of all the consciousnesses composing it, plus something more subtle. Just like you, you have lots of cells in your body. Each cell has its own consciousness, and you have a consciousness, which is the consciousness of your total individuality, though made up of all those small cellular consciousnesses. Another child asks, "Mother, here it is written, there is a wall of separative ignorance between the individual and the cosmic consciousness. Then, how to break down this wall?" And Mother answers, "Lose the ignorance, enter the knowledge. First of all, you must know what I have just told you, that you are a part of the whole, that this whole is a part of a greater whole, and that this greater whole is a part of a still greater whole, right up to its forming one single totality. Once you know that, you begin to become aware that in reality there cannot be any separation between you and something greater than you of which you are a part. This is the beginning. Now you must come to the point not only of thinking this, but of feeling it, and even living it. And then the wall of ignorance falls. One feels this unity everywhere, and realizes that he is only a more or less fragmentary part of a whole much vaster than he, which is the universe. Then one begins to have a more universal consciousness." And there's a silence, no more questions, and Mother says, "Is that all?" And then a child asks, "Sweet Mother, what does to be possessed by the divine mean?" And Mother responds with a question, "You don't know. What do you believe? That it is you who possess the divine, or the divine who possesses you?" The child asks again, "What does it mean?" And Mother says, It means that the divine enters into you and governs you, becomes the master of your consciousness and movements. This indeed is called being possessed by the divine. And then another child asks, Sweet Mother, is it the separation of Sat, Chit, and Ananda which has brought about ignorance, suffering? Then, and Mother interrupts and says, Why did they separate? The child says, Yes. And Mother laughs, and other people in the room also laugh a little bit. And Mother says, Probably they had no moral notions. And again, Mother laughs, and other people laugh. And then she's quiet for a very long time. And then she speaks. It is probable that if they had not separated, there would have been no universe as we have it. It should have been a necessity. But what you are asking is how it was not foreseen that it would happen in this way. Perhaps it was foreseen. It could have turned out well. It turned out badly. There it is. There are accidents. You know, so long as you want to apply your mental moral notions to the creation of the universe, you will never understand anything about it. Never. Because from all sides and in all ways, it goes beyond these conceptions, conceptions of good and evil and these things. All the mental moral conceptions we have cannot explain the universe. And for this part of ourselves, which indeed lives in a total ignorance, all that can be said is, because the explanations one gives are those of ignorance, and explain nothing at all. The mind explains one thing by another. This other, which needs to be explained, is explained by another still. And that other, which needs explanation, is explained by another. And if you continue in this way, you can go all round the universe and return to the starting point without having explained anything at all. And people laugh. Mother says, So you have to pierce a hole, rise in the air, and see things in another way. Then like that, one can begin to understand. And a child asks, How to do it? And Mother repeats, How to do it? And she laughs, and other people laugh with her. Aspiration is like an arrow, like this. And Mother makes a gesture, which is, we're pretty sure it's a gesture of an arrow going straight up into the air, because afterwards she kind of describes it. So, you aspire, want very earnestly to understand, know, enter into the truth, yes? And then, with that aspiration, you do this, and she makes this same arrow gesture. Your aspiration rises, 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 rises straight up, very strong. And then, it strikes against a kind of, how to put it, kind of lid, which is there, hard like iron and extremely thick, and it does not pass through. And then you say, See, what's the use of aspiring? It brings nothing at all. I meet with something hard and cannot pass. But you know about the drop of water which falls on the rock. It ends up by making a chasm. It cuts the rock from top to bottom. Your aspiration is a drop of water, which, instead of falling, rises. So, by the force of rising, it beats, 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 and one day it makes a hole, by the force of rising. And when it makes the hole, suddenly it springs out from this lid and enters an immensity of light, and you say, Ah, now I understand. It's like that. So, one must be very persistent, very stubborn, and have an aspiration which rises straight upwards, that is, which does not go roaming around here and there, seeking all kinds of things. Only this, to understand, 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 to learn, to know, to be. When one reaches the very top, there is nothing more to understand, nothing more to learn. One is. And it's when one is that one understands and knows. Another student asks, Mother, when one understands, what is it in us that understands? It's the like that knows the like. So it is only because you carry the thing in yourself that you discover it. Because you understand very well, don't you, that my story is an image, that all this is an image. It corresponds quite well with something, but it is an image all the same, because, you see, one can find it as well within as above. It's only because we have physical notions about the different material planes and material dimensions. Because when we understand, it is in another order of dimensions absolutely. Now this other dimensional order does not correspond to space. But you cannot understand and be something unless it is in you in some way or other, or you are in it. It's the same thing, isn't it? However, to make you understand more easily, I can say it's because it is in you, because it is a part of your consciousness somewhere. Otherwise, you could never become conscious of it. If one did not carry the divine within oneself, in the essence of one's being, one could never get the consciousness of the divine. It would be an impossible venture. And then, if you reverse the problem, the moment you conceive and feel in some way or other, or even, to begin with, admit that the divine is in you as well as you are in the divine, then already this opens the door to the realization. Just a little, not much, slightly ajar. Then, if later the aspiration comes, the intense need to know and to be, then that intense need widens the opening until one can creep in. Then, when one has crept in, one becomes aware of what he is. And that is exactly what Sri Aurobindo says, that one has forgotten that due to this separation of Sat, Chit, Ananda, forgetfulness comes. Forgetfulness of what one is. One thinks oneself to be somebody, you see. Anyone at all. A boy, a girl, a man, a woman, a dog, a horse, anything at all. A stone, the sea, the sun. One believes oneself to be all this, instead of thinking oneself the one divine. Because, in fact, if one had continued thinking oneself the one divine, there would have been no universe at all. That was what I wanted to tell him. And Mother indicates a child, most probably the child who asked the question about Satchitananda. That was what I wanted to tell him, that this phenomenon of separation seems to be indispensable for a universe to be there. Otherwise, it would always have remained as it was. But if we re-establish the unity, after having made it pass through this curve, you see, if we re-establish the unity, having benefited from the multiplicity, the division, then we have a unity of a higher quality, a unity which knows itself, instead of the unity which doesn't have to know itself, for there's nothing which may know the other. When the oneness is absolute, who is there who can know the oneness? We must at least be able to have an image, an appearance, of something which is not it, in order to understand what it is. I believe that this is the secret of the universe. Perhaps the divine wanted really to know himself. So he threw himself out and then looked at himself. And now he wants to enjoy this possibility of being himself with the full knowledge of himself. This becomes much more interesting. So then, another question? And a child asks, Mother, last time you spoke about the imagination, didn't you? And mother says, yes. And then the child says, then is it through the imagination that one can realize desires or aspirations? And mother responds with a question. That means, what exactly do you want to say? Imagining that the desire is realized, and in this way help its realization? And the child says, yes. And mother says very strongly, quite certainly, quite certainly. And the child continues, and ideals also? And mother responds, yes, but only usually yes. Almost totally, what people don't have at their disposal is the time it takes. But, for instance, if you have a very powerful imagination and build up the realization of your desire, build it up well with all its details and everything, like an admirably made formation existing in itself totally, you see. Well, you may be sure that if you live long enough, the thing will be realized. It can be realized the next day. It can be realized the next minute. It can take years. It can take centuries. But it is sure to be realized. And then, if to this imaginative power you add a kind of creative vital strength, you make a very living force of it. And, as all living forces tend towards realization, it will put a pressure upon terrestrial events in order to be able to realize itself sooner. And it is realized. Only, as I said, there are two things. First, as regards desires, personal circumstances, one is not very persistent or very steady. And after some time, what interested you very strongly doesn't interest you any longer. You think of something else, have another desire, make another formation. But now, the first thing one imagined is very well formed. After following its curve in space, it is realized. But by then, the person has started another construction, because, for some reason or other, the thing doesn't interest him anymore, and he is face to face with the realization of his first desire, while having already embarked upon the second, the third, or the fourth. So he is absolutely annoyed. But why? I don't want this any longer. Why does it come? Without his being conscious, that quite simply, it is the result of a previous deed. If, however, instead of being desires, they are aspirations for spiritual things, and one continues his line with a regular progress, then one is absolutely sure to obtain one day what he has imagined. The day may be slightly far off if there are many obstacles on the path. For example, if the formation that you have made is still very alien to the state of the Earth's atmosphere, well, It takes some time to prepare the conditions for its advent. But if it's something which has already been realized several times on Earth and does not imply too categorical a transformation, you may have it quite quickly, provided that you follow the same line persistently. And if you add to this the ardor of a faith and trust in the divine grace, and that kind of self-giving to the grace which makes you expect everything from it, then it can become tremendous. You can see things being realized more and more, and the most surprising ones can be realized one after the other. But for this, there are conditions to be fulfilled. One must have a great purity and a great intensity in one's self-giving, and that absolute trust in the supreme wisdom of the divine grace, that it knows better than we do what is good for us and all that. Then, if one offers one's aspiration to it, truly gives it, with enough intensity, the results are marvelous. But one must know how to see them. For when things are realized, most people find it absolutely natural. They don't even see why and how it has happened, and they tell themselves, "Yes, naturally it had to be like that." So they lose the joy of gratitude, because in the last analysis, if one can be filled with gratitude and thankfulness for the divine grace, it puts the finishing touch, and at each step one comes to see that things are exactly what they had to be and the best that could be. There. And so, Sat-Chit-Ananda begins to come together to form its unity once more. There we are, my children. That's all? Finished.
Alors,
qu'est-ce que c'est l'esprit cosmique, la nature cosmique?
Universel, ça veut dire. Cosmique, c'est le synonyme d'universel.
Mais qu'est-ce que c'est l'esprit cosmique?
L'esprit cosmique? C'est l'esprit cosmique, c'est l'esprit universel. C'est l'esprit qui est dans tout l'univers. Il y a un univers. Tu sais ce que c'est que l'univers? Eh bien, cet univers a un esprit, et cet esprit est l'esprit cosmique. Cet univers a une conscience, et sa conscience est la conscience cosmique, universelle. On peut très bien concevoir que l'univers n'est qu'une entité dans quelque chose qui est encore plus vaste, comme l'individu n'est qu'une entité dans une totalité, beaucoup plus vaste. Alors chaque unité a sa conscience et son esprit propre, qui contient tous les autres, comme la conscience, une conscience de groupe, est faite de toutes les consciences individuelles qu'il constitue. Comme une conscience nationale est faite de toutes les consciences des individus qu'il constitue, et de quelque chose de plus. L'individu est seulement un élément dans le tout. C'est comme la Terre fait partie du système solaire, le système solaire fait partie de tous les systèmes de l'univers. Alors, de même qu'il y a une conscience individuelle, il y a une conscience de groupe, il y a une conscience de système, et une conscience d'univers. Qui est faite de l'ensemble de toutes les consciences qu'il compose, plus something, quelque chose. Quelque chose de plus subtil. Comme toi, tu as des quantités de cellules dans ton corps. Chaque cellule a sa conscience propre. Et toi, tu as une conscience qui est la conscience de ton individu total, pourtant fait de toutes ces petites consciences cellulaires.
Si c'est écrit un mur d'ignorance s'interpose qui sépare la conscience de l'individu et la conscience cosmique. Alors, comment abattre ce mur?
Perdre l'ignorance, entrer dans la connaissance. D'abord, il faut savoir ce que je viens de te dire, qu'on est parti du tout. Que ce tout est parti d'un plus grand tout et que ce plus grand tout est parti encore d'un plus grand tout jusqu'à ce que ça ne forme qu'une seule totalité. Une fois que tu sais ça, tu commences à te rendre compte qu'au fond, il ne doit pas y avoir de séparation entre toi et quelque chose qui est plus grand de toi tout le temps que tu es la partie. Alors ça, c'est le commencement. Alors il faut arriver non seulement à penser cela, mais à le sentir et même à le vivre. Et alors le mur d'ignorance tombe, on sent cette unité partout et on réalise qu'on est seulement une partie plus ou moins fragmentaire d'un ensemble beaucoup plus vaste que soi, qui est l'univers. Et donc on commence à avoir une conscience plus universelle. C'est tout.
Qu'est-ce que cela veut dire? Être possédé par le divin.
Hein?
Être possédé par le divin.
Être possédé par
le divin.
Le divin. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est toi qui possèdes le divin ou c'est le divin qui possède le divin? Ça veut dire que le divin entre en toi et te gouverne, devient le maître de ta conscience et de tes mouvements. Ça s'appelle être possédé par le divin.
C'est la séparation de Satchit et Ananda qui a apporté cette ignorance, la douleur. Alors,
pourquoi ils se sont séparés? Probablement ils n'avaient pas de notion morale. Thank you. Il est probable que s'ils ne s'étaient pas séparés, il n'y aurait pas eu d'univers comme nous l'avons. Ça devait être une nécessité. Mais ce que tu demandes, c'est comment on n'avait pas prévu que ça arriverait comme ça. Hein? Peut-être qu'on avait prévu. Ça aurait pu bien tourner, ça a mal tourné. Des accidents. Tu sais, tant que tu voudras appliquer tes notions mentales, morales à la création de l'univers, tu n'y comprendras jamais rien. Jamais, parce que ça dépasse de toutes parts et de toute manière ces conceptions-là. Conception du bien et du mal et toutes ces choses. Toutes les conceptions mentales, morales, ne peuvent pas expliquer l'univers. Et pour cette partie de nous-mêmes qui vit justement dans une totale ignorance, tout ce que l'on peut dire, c'est les choses sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. On ne peut pas les expliquer. Parce que les explications qu'on donne sont des explications d'ignorance et n'expliquent rien du tout. Le mental explique une chose par une autre. Cet autre qui a besoin d'être expliqué est expliqué par une autre. Et cet autre qui a besoin de t'expliquer est expliqué par une autre. Et si tu continues comme ça, tu peux faire tout le tour de l'univers et revenir au point de départ sans avoir rien expliqué du tout. Alors il faut percer un trou, monter en l'air et voir les choses d'une autre manière. Alors là, on peut commencer à comprendre. L'aspiration est comme une flèche, comme ça. Alors tu aspires, tu veux très fortement comprendre, savoir, entrer dans la vérité. Hein? Alors avec cette aspiration, tu fais comme ça, n'est-ce pas? Ton aspiration monte. Tout droit, très fort. Et puis, ça bat contre une espèce de, comment dire, de casse qui est là, qui est dur comme du fer et extrêmement épais. Et ça passe pas. Et alors, tu dis, voilà à quoi ça sert d'aspirer, ça ne donne rien du tout. Je rencontre quelque chose de dur et ça ne peut pas passer. Mais tu sais, la goutte d'eau qui tombe sur le rocher, elle finit par faire un précipice. Ça coupe le rocher du haut en bas. Ton aspiration, c'est une goutte d'eau qui, au lieu de tomber, elle monte. Alors, à force de monter, elle bat, elle bat, elle bat, et un jour, ça fait un trou. À force de monter. Et quand ça fait le trou, tout d'un coup ça jaillit en dehors de ce cadre et ça entre dans une immensité de lumière et tu dis, ah, maintenant je comprends. C'est comme ça. Alors il faut être très persistant, très obstiné et avoir une aspiration qui monte tout droit. C'est-à-dire qu'il ne va pas vagabonder ici et là, cherchant toutes sortes de choses. Seulement ça, comprendre, savoir, connaître, être. Quand on arrive tout en haut, alors il n'y a plus à comprendre, il n'y a plus à savoir, on est. Et c'est quand on est qu'on comprend et qu'on sait.
Quand on comprend, qu'est-ce qu'il y a en nous qui comprend?
C'est le semblable qui comprend le semblable. Alors c'est seulement parce que tu portes en toi la chose que tu la découvres. Parce que tu comprends bien que mon histoire, c'est une image, n'est-ce pas? Comme tout ça, c'est une image. Ça correspond bien à quelque chose, mais c'est tout de même une image. Parce qu'on peut, trouver aussi bien au-dedans qu'en haut. Ça, c'est seulement parce que nous avons des notions physiques des différents, n'est-ce pas, des différents plans matériels, des dimensions matérielles. Parce que quand on comprend, c'est dans une autre, un autre ordre de dimension, tout à fait. Alors cet autre ordre de dimension ne correspond pas à l'espace. Mais tu ne peux comprendre et être quelque chose que parce que c'est en toi, d'une façon quelconque, ou tu es en cela. C'est la même chose, n'est-ce pas? Mais enfin, pour comprendre plus facilement, je peux dire parce que c'est en toi. Parce que ça fait partie de ta conscience, quelque part. Autrement, tu ne pourrais jamais en prendre conscience. Si on ne portait pas le divin en soi, dans l'essence de son être, jamais on ne pourrait prendre conscience du divin. Ce serait une entreprise impossible. Et alors, si tu renverses le problème, de la minute où tu conçois et tu sens d'une façon quelconque, ou même, pour commencer, tu admets que le divin est en toi, aussi bien que toi, tu es dans le divin. Alors déjà, ça ouvre la porte à la réalisation, un tout petit peu. Ah, beaucoup, entrebâillé. Alors si après vient cette aspiration, cet intense besoin de savoir et d'être, alors l'intense besoin augmente l'entrebâillement jusqu'à ce qu'on puisse se faufiler. Alors quand on s'est faufilé, on prend conscience de ce que l'on est. Et c'est justement ça qu'il dit. C'est qu'on a, oublié. C'est que par ce fait de séparation de Satchitananda vient l'oubli de ce que l'on est. On se croit, n'est-ce pas, n'importe qui, un garçon, une fille, un homme, une femme, un chien, un cheval, n'importe quoi, une pierre, la mer, le soleil. On se pense tout ça. Au lieu de se penser l'un divin. Parce qu'en fait, si on avait continué à se penser l'un divin, il n'y aurait pas d'univers du tout. C'était ce que je voulais lui dire, que ce phénomène de séparation semble être indispensable pour qu'il y ait eu un univers, autrement ça serait toujours resté comme c'était. Mais si nous rétablissons, après avoir fait passer par cette courbe, n'est-ce pas? Si nous rétablissons l'unité en ayant bénéficié de la multiplicité, n'est-ce pas, de la division, alors on a une unité de qualité supérieure. Une unité qui se connaît elle-même au lieu d'être une unité qui n'a pas à se connaître elle-même parce qu'il n'y a rien qui puisse connaître l'autre, n'est-ce pas. Quand l'unité est absolue, qu'est-ce qui peut connaître l'unité? Il faut tout de même pouvoir avoir un semblant, une apparence de quelque chose qui ne l'est pas pour comprendre ce que cela est. Je crois que ça, c'est le secret de l'univers. Peut-être que le divin voulait vraiment se connaître lui-même, alors il s'est jeté au dehors, puis il s'est regardé. Puis maintenant, il veut jouir de cette possibilité d'être lui-même avec la pleine connaissance de lui-même. Ça devient être beaucoup plus intéressant. Voilà. Autre question?
La dernière fois, tu parlais de l'imagination.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut par les imaginations réaliser des désirs ou des aspirations?
Ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? S'imaginer que le désir est réalisé. Et comme ça, aider à sa réalisation.
Oui.
Très certainement. Très certainement.
Et les idéaux aussi.
Seulement, n'est-ce pas, ce qui n'est pas tout à fait généralement, d'une façon presque totale. Ce qui n'est pas à la disposition des gens, c'est le temps que ça prend. Mais si, par exemple, tu as une très forte imagination et que tu bâtis la réalisation de ton désir, que tu la bâtis bien, avec tous les détails, et tout est comme une formation admirablement faite, qui existe en soi, n'est-ce pas? Totalement. Eh bien, tu peux être sûr que si tu vis assez longtemps, la chose se réalisera. Ça peut se réaliser demain, ça peut se réaliser la minute suivante, ça peut prendre des années, ça peut prendre des siècles. Mais c'est sûr que ça se réalisera. Et alors, si à ce pouvoir imaginatif, on ajoute une espèce de puissance vitale créatrice, alors on en fait une force tout à fait vivante. Et comme toutes les forces vivantes tendent vers la manifestation, ça mettra une pression sur les événements terrestres pour pouvoir se réaliser plus tôt. Et ça se réalise. Seulement, comme j'ai dit, il y a deux choses. D'abord, pour ce qui est des désirs, des circonstances personnelles, on n'est pas très persistant, ni très stable. Et au bout d'un certain temps, quelque chose qui vous intéressait très fortement ne vous intéresse plus. On pense à autre chose, on a un autre désir et on fait une autre formation. Et alors la première chose que l'on a imaginée est très bien formée, après avoir suivi sa courbe dans l'espace, elle se réalise. Mais alors la personne a commencé une autre construction parce que pour une raison quelconque la chose ne l'intéresse plus. Elle se trouve en présence de la réalisation de son premier désir, tandis qu'il est déjà embarqué dans le deuxième, le troisième ou le quatrième, et absolument vexé, mais moi je ne veux plus de ça, pourquoi est-ce que ça vient? Sans se rendre compte que c'est tout simplement le résultat d'une action précédente. Mais si au lieu d'être des désirs, ce sont des aspirations pour des choses spirituelles, et qu'on continue sa ligne avec une progression régulière, alors on est absolument sûr d'obtenir un jour ce que l'on a imaginé. Sûr. Ça peut être un jour un peu distant s'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Par exemple, si la formation que vous avez faite est encore très étrangère à l'état de l'atmosphère terrestre. Eh bien, ça prend un peu de temps pour préparer les conditions de son avènement. Mais si c'est quelque chose qui a déjà été réalisé plusieurs fois sur la Terre et qui ne représente pas une transformation trop catégorique, on peut l'avoir assez vite. Pourvu qu'on suive la même ligne avec persistance. Et si on ajoute à ça l'ardeur d'une foi et d'une confiance dans la grâce divine, et cette espèce de don de soi à la grâce qui fait qu'on attend tout d'elle, alors ça peut devenir formidable. On peut voir se réaliser les choses de plus en plus, et les plus étonnantes peuvent se réaliser l'une après l'autre. Mais ça, il y a des conditions à remplir. Il faut avoir une grande pureté et une grande intensité dans ce don de soi et cette confiance absolue en la sagesse suprême de la grâce divine, qu'elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et tout ça. Alors si on lui fait l'offrande de son aspiration, vraiment qu'on la lui donne avec suffisamment d'intensité, les résultats sont merveilleux. Mais il faut savoir les voir. Parce que la plupart des gens, quand les choses se réalisent, ils trouvent ça tout à fait naturel. Ils ne voient même pas pourquoi et comment c'est arrivé. Et ils se disent comme ça, oui, naturellement, ça devait être comme ça. Alors ils perdent la joie de la gratitude. Parce que, en dernière analyse, si on peut être rempli de gratitude et de reconnaissance pour la grâce divine, ça met la dernière touche. Et à chaque pas, on arrive à voir que les choses sont exactement ce que ça devait être et le meilleur qui puisse être. Voilà. Et alors, cette Chidananda commence à se rassembler, à reformer son unité. Voilà, mes enfants. C'est tout fini.